Vous rappelez aussi que la deuxième séance la semaine dernière était consacrée aux Mayas de l'époque post-classique dans le Yucatan. C'est donc l'Amérique qui était le sujet de notre dernier atelier. Aujourd'hui, c'est un troisième atelier qui est donc consacré à une culture sur un des trois continents restants. On va essayer évidemment de deviner assez vite laquelle. Je ne vous recommande pas nos petites règles habituelles que vous connaissez trop bien. Et je voudrais d'emblée que nous entrions dans le premier chapitre. Il y en aura deux. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et le premier chapitre va donc nous faire aborder, comme d'habitude, une œuvre qui va nous faire rentrer dans la culture et dans le continent qui est celui de notre séance d'aujourd'hui. Et voilà la sculpture en question. Alors, première chose, comme d'habitude, est-ce que vous pouvez me donner des idées sur les éléments, je dirais, très factuels de cette œuvre? De quoi s'agit-il? Quelle est la matière? Quelle est grosso modo la taille? Et aussi, qu'est-ce qui est représenté sur l'œuvre que vous voyez ici? Alors d'abord, peut-être taille et matière.
Elle est en pierre.
Pierre. Et quelle hauteur à peu près?
40
centimètres. Quarantaine de centimètres,
oui.
Donc quelque chose comme ça.
Hein. 70.
70, donc quelque chose d'assez important. Bon, on va dire entre 1 mètre et 50 centimètres, quoi, hein, grosso modo. Alors, à vrai dire, ce n'est ni de la pierre, ni aussi grand que ça. C'est plus petit, c'est une pièce qui fait autour de 25-30 cm.
C'est pas d'ivoire.
Et c'est une pièce qui n'est pas en pierre.
C'est pas de l'ivoire.
Du bois.
Non, ivoire, c'est...
De la terre. De la terre.
La paix de la terre.
Terre, bois. Terre, plutôt terre.
Oui, je pense.
Je sens se lever la terre, non, non. Terre. Ben, c'est pas vraiment de la terre. Alors, vous aviez dit terre, mais vous aviez dit... C'est du bois. Mais si j'ai dit que ça n'était pas vraiment de la terre... C'est parce que c'est peut-être un peu, sinon de la terre, du moins autre chose. Parce que ces sculptures, qui fait à peu près une trentaine de centimètres de haut, hein, 25 environ, oui, là c'est une petite trentaine. Et cette sculpture est une sculpture en bois, mais qu'est-ce qui fait qu'elle a cet aspect un peu particulier? Quel aspect a-t-elle d'ailleurs?
Alors, il a pu être dans l'eau.
Elle est en
un séjour dans l'eau. Qui aurait été dans l'eau.
Un certain séjour dans l'eau ou dans la terre elle-même.
Un séjour dans l'eau ou dans la terre qui lui aurait donné cet aspect un peu comment?
Grenu.
Grenu.
Granuleux.
Craquelé. Ouais. Donc, une pièce qui est en bois, mais qui, du fait d'un séjour assez long dans l'eau, est devenue granuleuse, craquelée, grumeleuse. Un peu en décomposition, pourrissante, pourrait-on dire, hein, de certaine manière. Eh bien, c'est pas tout à fait le cas.
Ça peut être un amalgame de terre et bois.
Alors, un amalgame terre et bois, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Une racine.
Un mélange. C'est-à-dire qu'on aurait... qu'est-ce qu'on aurait fait avec le bois?
On
aurait enrobé de terre. Vous disiez
une racine.
Une racine. Alors, ça n'est pas une racine, mais votre idée d'enrobage n'est peut-être pas mal. À vrai dire, cette pièce, à part spécialement séjourner dans de la boue, dans de l'eau, etc., elle a plutôt été enrobée, mais pas enrobée de terre.
D'écorce.
Pas d'écorce. Cendre, on se rapproche.
De sable.
Pas tout à fait non plus.
De sûr.
Non plus.
De tissu. Une résine.
Non. Alors résine, on se rapproche encore.
C'est impossible.
Pardon.
De lave.
Pas de lave.
De l'ambre.
Non plus.
Non, c'est pas craquelé.
Résine, c'est pas mal. Résine. Résine, cendre, on est pas trop loin là.
Alors elle aurait été soumise au feu.
Alors, soumise au feu, c'est vrai que ça ressemble un peu du bois brûlé, mais non. On n'est pas très loin non plus.
De naphte.
Pardon?
Naphte.
Alors, pas précisément, si vous voulez. Vous allez comprendre, c'est un peu... Tout ce que vous dites n'est pas très loin, mais ce n'est pas tout à fait ça.
Quoi. De la lave?
Non.
Dans une terre gelée?
Non plus. Et d'ailleurs, à votre avis, pourquoi? Parce que vous parliez d'enrobage, d'enrobement. Hein. Pourquoi est-ce que cette sculpture qui est donc en bois, elle se s'est trouvée enrobée? Alors de quoi? On va voir. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'elle est, elle est ainsi enrobée?
Bah, objet de culte.
Peut-être que...
C'est une momie.
Pardon.
Objet de culte.
Ah, l'idée d'un objet de culte. Alors, un objet de... pourquoi est-ce qu'un objet de culte est enrobé?
D'un voile.
Pardon?
Un voile.
Un voile, c'est-à-dire qu'on l'aurait couvert d'un voile, mais ça n'est pas du tissu qui est dessus. Donc effectivement, c'est un objet cultuel, et c'est peut-être cette dimension cultuelle qui a créé cet enrobage que vous avez là, mais pourquoi et comment?
On pourrait faire un végétal.
C'est plutôt quelque chose qui est lié à du végétal, oui.
Papyrus?
Non. Donc cette sculpture en bois d'une petite trentaine de centimètres de haut est donc un objet cultuel, mais cet objet cultuel en bois est comme enrobé d'une matière. Quelle est cette matière? Et pourquoi a-t-on enrobé cet objet en bois d'une matière? C'est ça les deux questions. Hein. Pourquoi est-ce que cet objet cultuel en bois se trouve ainsi enrobé? Et quelle est la matière enrobeuse?
Il y a une sculpture à l'intérieur.
À l'intérieur, la sculpture est en bois. Hein, c'est une sculpture en bois, mais qui est enrobée.
Hein.
On voulait peut-être qu'il soit. Alors donc, on a comme mis une matière pour que ça dure, quoi. Hein.
Ouais, pour la protéger.
Il avait une fonction.
Pas vraiment ça.
Est-ce que ce serait pas qu'elle soit recouverte de beurre ou de substance grasse pour faire offrande à Dieu?
C'est beaucoup plus ça. C'est-à-dire qu'effectivement, cette pièce a été couverte, recouverte de substances. Et comme vous dites, ce sont des offrandes. C'est-à-dire que cette pièce, qui est très ancienne, a été au cours des décennies, au cours des siècles, couverte encore, couverte toujours, de substances qui sont autant d'offrandes et qui ont créé une sorte de couches, et des couches tellement nombreuses les unes derrière les autres, que c'est presque venu jusqu'à laquer en quelque sorte la pièce. Alors la différence entre ça et le lac, vous savez qu'on dit le lac, hein. La différence entre ça et du lac, c'est que le lac est quelque chose de très lisse, etc. Mais vous allez voir, enfin, je ne sais pas si je vous en ai passé, je vais vous montrer des pièces qui sont couvertes d'une sorte de lac, d'un sorte de lac d'ailleurs, très lisse justement. Là, ce lac est, j'allais dire, grumeleux, craquelé, mais c'est un peu ça, hein. C'est-à-dire qu'on a fait des libations sur cette sculpture. Alors, quelle sorte de libation on a pu faire pour obtenir ça, à votre avis?
Miel,
peut-être.
Du beurre.
Peut-être du beurre, des substances grasses de genre.
De l'huile.
Du sang,
certainement.
Du lait.
Peut-être. Or, on a également mis sûrement ce qu'on appelle du gruau. Vous savez, c'est une sorte de bouillie, hein, faite à partir de certains végétaux bien épais, hein, ou certains types de bière aussi. Hein. Tout ça est venu petit à petit s'empiler sur la sculpture et est devenu un peu comme si on avait plongé dans du plastique, hein, ou dans du lac, encore une fois, et ça est venu enrober la sculpture en question. Bien. Cette œuvre en bois... Cet objet cultuel, objet de libation pendant des décennies et des siècles, qui se présente aujourd'hui craquelé, enrobé et craquelé, elle représente quoi?
Une idole.
Oui. Alors, c'est en tout cas homme-femme. Pour ma part, j'aurais du mal à le dire. Je ne sais pas vous, mais bon, c'est un peu difficile. Peut-être bien les deux.
Parce qu'il y a une poitrine et peut-être un sexe masculin.
Absolument. On a l'impression que c'est un peu les deux en même temps. Hein. Ouais. Voilà, en tout cas, on va dire un personnage. J'ai entendu le mot idole, par exemple. Alors oui, une sorte de, en tout cas de divinité, pourrait-on dire. Hein. Un peu difficile, évidemment, de tout de suite l'identifier. Et alors, cette divinité que vous voyez là, cette sculpture en bois enrobée, vous la verriez originaire de quel endroit et peut-être datant grosso modo de quelle période?
L'Asie, non?
Asie.
En Inde.
L'Afrique. Inde. L'Afrique. Ah, Asie-Afrique, c'est vrai qu'il reste trois continents. Hein. L'Asie, l'Afrique, l'Europe. Donc forcément, on est peut-être pas en Europe, peut-être plutôt en Asie ou en Afrique, c'est ça?
En Asie, en Sibérie.
Moi, je dirais plutôt Afrique.
Afrique?
Mmh. Afrique.
Donc, soit Afrique, soit Asie, hein, c'est ça votre, oui. Hein, votre idée. Eh bien, à vrai dire...
Europe. Non, c'est la surprise.
Bon, je n'ai pas l'esprit si mal tourné.
Un peu.
Non, ça n'est pas l'Europe. Hein. C'est pas l'Europe. J'aurais pu vous trouver une pièce européenne qui aurait fait très africano-asiatique ou très asio-africaine. C'est une pièce africaine que vous avez. C'est donc une pièce africaine que vous avez là. Vous avez une sculpture africaine. Une petite idée, on va détailler ça, hein, mais une petite idée de la période, grosso modo, et peut-être de la partie de l'Afrique, c'est grand, hein. Une idée peut-être de l'endroit d'Afrique d'où cette sculpture peut être originaire. Non. Une période peut-être, grosso modo, hein, je ne demande pas.
Le 19e.
19e.
Plus ancien.
Mais plus ancien, ça veut dire quoi?
Avant.
C'est donc avant le 19e. Alors vous avez raison, hein, c'est une sculpture qui vient donc d'Afrique, qui date d'avant le 19e, de bien avant même, vous allez voir. Hein. Et alors, ça date de bien avant le 19e, mais c'est originaire de quelle partie de l'Afrique? Plutôt à droite, à gauche, au sud, au centre. Afrique noire, Afrique subsaharienne, ou bien au contraire Afrique du Nord. Afrique noire, Afrique subsaharienne, oui. Mais l'Afrique noire, c'est grand.
C'est grand encore, mais c'est
bon, non? Pardon? Dogon. Alors les Dogon, c'est où? C'est quoi?
Mali, en Afrique centrale.
Afrique centrale.
Mali.
Cameroun. Bon, alors on va voir. Voilà la légende de la sculpture. D'abord, vous voyez que c'est très ancien. Hein. C'est une pièce qui date d'une période encore difficile à déterminer, mais entre le 10e et le 15e siècle. Ce que vous avez là, c'est une pièce médiévale. Hein. Date du Moyen-Âge. Enfin, l'équivalent de notre Moyen-Âge sur le continent africain. Et c'est une pièce qui vient d'une culture qui s'appelle la culture Telem. Telem, ça veut dire, dans un certain langage africain dont je vous parlerai, ça veut dire « gens d'avant ». Donc les Telem ont existé avant une autre culture qui existe aujourd'hui. Ce nom de Telem, ça vous dit quelque chose ou pas?
Oui,
Telem.
Telem, c'est autre chose. Non, je sais que c'est pas pareil.
Je crois pas.
C'est sûr que c'est pas ça.
Non, ça vous dit pas quelque chose de particulier?
Non.
Alors, parce que ça, c'est une chose qu'on peut pas deviner, hein. Cette culture Telem est une culture qui, en fait, s'est développée juste avant la culture dont il a été question tout à l'heure, qui est celle des Dogons. Les Telem, ce sont des pré-Dogons. D'ailleurs, ce sont les Dogons qui ont appelé les Telem, Telem. Parce que quand les Dogons sont arrivés sur leur territoire dont on va reparler, hein, ils ont trouvé des gens qui étaient là avant, des gens d'avant, qu'ils ont appelés les Telem. Telem, ça veut dire « gens d'avant ». Ou très littéralement ce que l'on a trouvé, hein. Ben, les Dogons, en arrivant précisément autour du 15e siècle, hein, dans le territoire qui est le leur aujourd'hui, ont trouvé des populations qui sont les Telem. Et voilà une œuvre Telem, autrement dit une œuvre qui est pré-Dogon. D'accord ?
D'accord.
Alors peut-être pour y voir un peu plus clair dans ces questions-là, voilà une carte qui nous montre le territoire des Telem. Le territoire des Telem, grosso modo, il se développe le long de ce secteur. Là, vous voyez qu'il y a dessiné sur cette carte une falaise qu'on appelle la falaise de Bandiagara. Alors, d'un côté, vous avez donc là la falaise, d'un côté, c'est la plaine, qui s'étend en direction du Burkina Faso, pays dont on parle beaucoup actuellement. Et au-dessus de la falaise, vous avez un plateau qu'on appelle le plateau de Bandiaga. Voilà. Et là, vous voyez le delta inférieur, intérieur du Niger. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce plateau de Bandiaga et cette falaise de Bandiaga, ça se trouve dans quel pays ?
Le Mali.
Hein. La falaise de Bandiaga, le plateau de Bandiaga, c'est au Mali. Donc la culture Telem, tout comme la culture Dogon qui lui fait suite, hein, se situe sur le territoire actuel du Mali, pays dont on parle beaucoup, et vous savez trop bien pourquoi. Je vous montre là, pour qu'on ait bien les choses en tête, hein, cette carte de l'Afrique de l'Ouest. On est donc en Afrique de l'Ouest. Hein. Voilà le Mali, hein, très grand pays, Bamako la capitale. Voilà notre Niger, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Et là, vous reconnaissez Bandiagara, hein, le secteur et la ville dont je vous ai parlé. Et donc la falaise que l'on a vue est par là, avec le plateau ici en direction du fleuve Niger et en direction du Burkina Faso, la plaine. D'accord ? Ça, c'est pour bien situer ce dont on parle. Hein. C'est donc bien là que nous allons aujourd'hui nous répandre, hein, du côté de la falaise de Bandiagara, au-dessus, en dessous. On va d'abord faire une première partie autour de ces Telem, dont on vient de voir une œuvre, et après une deuxième partie autour des Dogon, qui ont pris la suite des Telem. Ça, ça nous permettra aussi de voir ce que les uns, peut-être, ont pris aux autres. Comment il peut y avoir parfois, ou non, hein, des continuités entre les cultures, en l'occurrence en Afrique de l'Ouest. D'accord ? Alors, qu'est-ce que vous voyez là ?
Une falaise.
La falaise. Quelle falaise ?
De
Bandiagara. Hein, ce que vous avez là, c'est la falaise de Bandiagara. Enfin, un morceau, parce que cette falaise est très très longue. Hein. Donc ce qu'on a là, c'est un morceau de la falaise de Bandiagara. Et qu'est-ce que vous voyez accroché dans la falaise de Bandiagara ?
Des arbres.
Des ouvertures troglodytiques.
Des ouvertures, comme s'il y avait effectivement des éléments troglodytiques ou troglodytes à l'intérieur de la falaise.
Avec des constructions un peu à l'extérieur.
Des constructions qui sont faites souvent un peu à l'extérieur, hein, vous voyez. Donc effectivement, vous avez là toute une série de constructions qui s'accrochent dans la falaise. Bien. À votre avis, ces constructions... date de l'époque des Telem, hein, puisque je vous l'ai dit, la première partie serait autour des Telem, là, nous parlons des Telem. À quoi servaient-elles ? Ces constructions que vous avez là, elles servaient à quoi ?
Des greniers.
Alors, certaines de ces constructions étaient effectivement des greniers, hein, c'est-à-dire des lieux pour quoi faire ?
Garder les céréales.
Voilà, pour garder les céréales, absolument. Donc, un certain nombre de ces éléments sont des greniers, des lieux, des constructions pour mettre, pour garder les céréales. Mais il y a d'autres éléments sur, une telle, enfin, sur la falaise de Bandiagara qui servaient aussi à autre chose. À quoi ?
Une
sépulture. Effectivement. Hein. Les constructions que vous avez là sont soit des greniers, soit des sépultures. Mais alors, si ce sont des greniers ou des sépultures, où est-ce que les Telem habitaient ? Pardon ? Effectivement, ils habitaient dans la plaine, c'est-à-dire plutôt au pied de la falaise. Hein. Dans la falaise, ce sont les greniers, les sépultures. Au pied de la falaise, ce sont les villages, les lieux d'habitation. Il y a quand même autre chose que l'on pouvait trouver aussi dans la falaise, dans ces grottes aménagées, parfois en sépulture, parfois en grenier. On pouvait également trouver des grottes qui étaient dédiées à autre chose. À quoi ?
Des lieux de culte.
Voilà, des lieux de culte, hein, des sanctuaires. En fait, dans la falaise de Bandiagara, dans ces constructions Telem, on trouve soit des greniers, soit des lieux sépulcrales, soit des lieux de culte. Là, en l'occurrence, cet ensemble que vous voyez là, qui se trouve dans la région de Sanga, ces constructions datent grosso modo des 13e, 15e siècles. Hein. On est vraiment à l'époque Telem, c'est-à-dire... ce qui correspond à la fin du Moyen-Âge occidental. Je vais vous passer une vue d'une sépulture, d'une des sépultures que l'on trouve, elles sont nombreuses dans la falaise de Bandiagara. Hein. À votre avis, depuis quand, grosso modo, a-t-on commencé à s'intéresser à la culture des Thélèmes ? Qui, quand, je ne vous demande pas un nom, hein, mais qui et quand, finalement, quelles sont les personnes et quand a-t-on commencé à s'intéresser à cette culture des Thélèmes, mais aussi à celle des Dogons ?
Colonisation.
Voilà, c'est la colonisation, et qui a été l'œuvre de qui ?
Les Français.
Ben, les Français. Hein. C'est les Français hein, qui ont colonisé ce qui est aujourd'hui le Mali. Et effectivement, dès la fin du 19e et le début du 20e siècle, beaucoup de chercheurs français ont travaillé sur les Thélèmes et le Dogon. Et puis ça s'est poursuivi durant tout le 20e siècle. Et aujourd'hui, il y a des équipes à la fois maliennes, mais notamment hollandaises, hein, qui travaillent sur les Thélèmes et le Dogon. Et pour trouver notamment ce genre de choses. Ce que vous voyez là, c'est une grotte sépulcrale.
Oui, effectivement. Quelques ossements.
Il y a quelques ossements. C'est pas très bien rangé, non ?
Non.
Non, comme vous dites. C'est pas très bien rangé, c'est un peu, comment dire, bouleversé. En fait, le problème de ces grottes sépulcrales, c'est qu'elles ont été utilisées parfois durant plusieurs siècles d'affilée. Souvent, d'ailleurs, les Dogons ont continué à les utiliser après les Thélèmes. Vous voyez le mélange. Hein. À chaque fois, on remue les ossements. Bon, ce qui fait que c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Mais il va bien falloir qu'on essaie de s'y retrouver, parce que justement, la première partie de cette séance va être une sorte de jeu, si j'ose dire, parce que je vais vous montrer un certain nombre d'objets qui ont été découverts dans ces cavernes sépulcrales. Parce que c'est peut-être, j'allais dire, un paradoxe, hein, mais pour connaître la vie et la culture des Thélèmes, ce qu'ils font, c'est aller voir leurs morts. Hein. C'est en allant voir ce qu'on trouve dans les cavernes sépulcrales qu'on en sait le plus sur les Thélèmes. Alors on va essayer de regarder un certain nombre d'objets trouvés dans les cavernes sépulcrales des Thélèmes et on va essayer de voir ce qu'on peut en apprendre. D'accord ?
Okay.
Alors allons-y. Commençons un peu à faire le tri. Nous sommes des archéologues, nous avons fouillé la caverne sépulcrale que vous voyez ici. Nous avons trouvé des objets. Essayons de voir ce qu'on peut dire de ces objets trouvés dans cette caverne sépulcrale ou pourquoi pas aussi dans les cavernes sanctuaires que l'on peut trouver dans la falaise. Premier objet.
Siège. Non, vase.
Vase.
Une coupe cassée. Cassée, c'est sûr.
Pardon ? C'est cassé, c'est sûr. C'est un peu cassé, effectivement. Donc plutôt une coupe, enfin un vase qu'un siège.
Oui.
Oui. Quelle matière ?
Terre.
C'est effectivement, ça ressemble un peu à un siège, mais c'est une coupe. Hein. C'est une coupe en terre cuite que vous voyez là. À votre avis, le type de décor que vous avez aussi bien sur le pied que sur le corps de cette coupe a pu être réalisé comment ?
Une
scarification, mais quel, peut-être avec quel type de, d'objet ou d'instrument ?
Une pierre.
Alors, pas une pierre.
Un os.
Non plus.
Le bois.
Non plus. Ça a été réalisé avec des cordelettes. Des cordelettes en roulant, on appelle ça alors, des décors à la cordelette. Alors, ce genre d'objet que vous voyez là, qui est en effet une coupe à quatre pieds, est un type d'objet que l'on trouve très souvent dans les cavernes sépulcrales des Thélèmes. Voilà. Alors, ça ne veut pas forcément dire d'ailleurs que c'était spécialement dédié à ces cavernes-là, mais enfin, c'est quand même là qu'on les a trouvés. Et c'est un type d'objet sépulcral qu'on trouve d'ailleurs dans beaucoup d'autres endroits d'Afrique de l'Ouest. On est là dans une sorte d'objet qui est un peu un invariant, semble-t-il, hein, des cultures de ces territoires d'Afrique de l'Ouest dans ce que j'appellerais la fin du Moyen-Âge. Bien, continuons notre quête. Alors d'abord, c'est dans quelle matière, ça ?
Bois.
C'est en bois.
Un moule à beurre.
Un repose-tête. Pas tout à fait pareil.
Ça doit être pointu là.
Ça ferait mal.
Alors repose-tête, moule à beurre.
Plateau.
C'est grand comment ?
50
centimètres. 50 centimètres, un truc comme ça. Quoi.
Oui, voilà.
Une râpe à quelque chose.
qu'il y a un dessin quand même.
Il y a un dessin.
Avec une plaque.
Oui, effectivement, un dessin, un décor, effectivement. Alors, je vois qu'il y a trois options. Un plateau. C'est vrai que pour amener le café au salon,
non, c'est pas
un moule à beurre. C'est vrai qu'on faire ses tartines aussi. Et un repose-tête pour les gens un peu spartiates. Pas d'oreiller.
Mais pourquoi
Alors, je ne sais pas quelle est. Pardon. Ah, un bouclier.
Un bouclier.
Aussi. Pardon. Ah, ben moi je ne sais pas, je ne sais rien, vous savez. C'est assez fin. Hein, c'est assez fin. Ça, vous disiez une cinquantaine de centimètres. Alors on a quatre options. Une option guerrière, un bouclier. Une option culinaire, un moule à beurre. Une option confortable, entre guillemets, un repose-tête. Et puis une option, je ne sais pas comment la dire. Ben, derrière le, non, mais le plateau, je ne sais pas, usuel, un plateau. Alors, quelle option a votre préférence?
C'est utilitaire?
Ah, c'est tout à fait, c'est relativement utilitaire.
C'est des femmes qui...
Pardon?
Pour apprendre à compter.
Pour apprendre à compter. Ah, ce serait une bonne idée avec toutes ces...
C'est pas une obligation, alors. Non, parce que c'est pas pardon.
Donc ça rajoute une cinquième option. Vous voyez que ces objets sont des objets qui vous permettent de développer... De... Je tiens à dire que dans ces cinq options, il y en a une qui est la bonne. Vous donnez votre langue au chat?
Oui.
J'y vais?
Oui. Oh, c'est pas vrai.
Monsieur avait raison.
Pourquoi de femmes? Pourquoi de femmes?
Ah. Oui, parce que
pourquoi de femmes?
Pour les faire souffrir.
Ah, ça vous allez voir. Vous allez voir ce que je n'ai pas dit mon dernier mot dans ce domaine.
Ah, non.
Donc c'est bel et bien un repose-tête. Bel et bien un repose-tête. Alors, là, mais de femmes. Pas d'hommes.
Pourquoi de femmes?
Pourquoi de femmes?
Parce que les nous allons voir. Nous allons voir. Oui, oui. Nous autres ne pourrions pas des repose-têtes de genre, bien entendu. Bah, donc c'est un repose-tête de femme. Parenthèse, vous voyez que c'est un objet là aussi très ancien. Vous voyez à quel point ces cavernes de Thélème, ça a été trouvé dans une caverne sépulcrale, hein, c'est un objet qui se trouve au musée de Bamako. Vous voyez à quel point ces cavernes, à cause de leur climat très très spécial, hein, ont gardé des objets qui ont 1000 ans, hein, quasiment, hein, dans un état extraordinaire. C'est absolument étonnant. Vous avez là un objet des 10-11e siècle, des objets en bois en France datant du 10-11e siècle, vous n'en avez pas beaucoup, hein, en tout cas pas beaucoup dans cet état. Là, oui, parce que les conditions de conservation naturelles, si vous voulez, sont tout à fait extraordinaires et ont permis la conservation de ces objets. Donc, un repose-tête, un appui-nu, pourrait-on dire, hein, plutôt, Thélème, datant des 11-12e siècle. J'ai bien entendu qu'il y avait une question par rapport aux appui-nus des hommes, mais sur ça, nous reviendrons peut-être plus tard.
C'est pas une écharpe.
Un tissu.
Oui, ouais. Ça, c'est...
Un tissu. Alors, peut-être est-il bienvenu de le mettre sur le repose-nuque, effectivement. On peut penser que ce serait peut-être... Mais ce n'est pas forcément le cas. Hein. En fait, c'est un très grand tissu que vous avez là, effectivement. Un tissu qui peut servir à quoi?
Couverture.
Oui, c'est une couverture. À vrai dire, dans ces cavernes sépulcrales que je vous ai décrites, on a trouvé beaucoup de ces couvertures qui étaient là tout simplement pour enrober les morts. Alors quelquefois même on a trouvé des habits. Hein. Je me rappelle, vous êtes Bamako, par exemple, il y a encore un crâne avec un bonnet dessus. Voilà. Donc ce que vous avez là est effectivement une couverture. À votre avis, quelle est la matière textile la plus répandue dans ce secteur d'Afrique? Alors, laine, effectivement, on en trouve un peu. Surtout le coton. Vous savez qu'encore aujourd'hui au Mali, on cultive beaucoup le coton. Et la couverture que vous avez là, si je ne m'abuse, oui, c'est du coton. On trouve beaucoup, beaucoup de pièces de coton. Voilà une pièce du 15e siècle. Je vous en montre une autre, du 14e. Vous êtes Bamako, une extraordinaire collection comme ça de tissus médiévaux qui viennent de ces cavernes sépulcrales des Thélèmes. C'est quand même absolument extraordinaire. Très bien conservé.
Non, c'est
C'est un post-tête, ça aussi.
Beau, ça.
C'est un post-tête.
C'est quoi, ça?
C'est un appui-tête.
Repose-tête ou siège.
Mais il est dans le bon sens ou...
Bon, c'est repose quelque chose, en tout
cas. Oui, est-ce que
voilà.
C'est un repose-tête pour un...
C'est plutôt un siège.
Parce que plutôt
c'est...
un siège.
C'est haut, peut-être. Il a plutôt un appui-tête.
Plutôt un appui-tête.
Mais pour les hommes.
Mais pour les hommes. C'est-à-dire, ce serait dans ces cas-là beaucoup plus inconfortable que pour les femmes. Soit on est toujours sacrifié. Donc alors, siège ou repose-tête ?
Siège.
Siège.
Parce que c'est haut, quand même.
C'est pas,
c'est pas c'est haut.
Quelle est la matière ?
Bois.
C'est du bois.
On voit qu'il est abîmé, on va.
Alors, vous donnez votre langue au chat, là, aussi
oui.
Siège, repose-tête
Repose-tête, quoi.
Eh bien, il y avait C'est pas possible, ça.
Et pour homme, effectivement.
Alors, pourquoi pour homme et pourquoi pour homme?
Alors, ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, dans les... Parce qu'on connaît beaucoup de choses des Thélèmes par les Dogons. Et chez les Dogons, les appuis-têtes masculins sont verticaux, les appuis-têtes féminins sont horizontaux. Voilà. La raison.
Mais c'est le contraire.
Quelle taille ça là,
c'est pas très grand. Hein. C'est un objet qui est à peu près, qui fait cette taille-là. Hein, et cette hauteur-là. C'est pas très grand.
Ça fait quand même.
Moi, j'ai jamais. Pour ma part, je n'ai jamais compris comment on pouvait mettre sa nuque là-dessus. Mais vous savez qu'il y a des tas de cultures à travers le monde où c'est comme ça. Hein,
oui,
on en verra peut-être d'autres, d'ailleurs, dans d'autres cultures. Hein. Mais j'avoue que je, pour ma part, je voilà. Mais. Bon, chaque culture a ses merveilleuses singularités.
Mais c'était pour les vivants.
Ah, c'est pour les vivants comme pour les morts.
Comme pour les morts, parce qu'à la limite, alors, la mort n'aura pas mal, mais...
Oui, non, mais c'est pour les vivants comme pour les morts.
D'accord.
Est-ce que vous connaissez d'autres cultures africaines qui ont beaucoup pratiqué le repose-nuque ?
Les Égyptiens.
Dans l'Égypte antique, vous avez énormément, n'est-ce pas, de repose-nuque. Alors, on les trouve évidemment dans les tombes. Hein. Vous savez que les Égyptiens enterraient les morts avec des objets des vivants. Hein. Voilà. Et donc là, c'est exactement la même chose.
Cette fois-ci, plus femmes.
Oui, ça ressemble au truc
premier,
du début.
Hein. La première.
En quoi d'ailleurs cette pièce-là ressemble à ce que nous avons vu au départ ?
La matière.
C'est-à-dire qu'a priori, c'est en quoi ça ?
En bois.
Voilà. On est effectivement devant exactement le même genre de choses, c'est-à-dire une pièce en bois, enrobée. Alors maintenant, on sait pourquoi. Vous me rappelez pourquoi cet enrobage ou cet enrobement ?
Je ne sais pas ce que
vous voulez dire. Les offrandes, hein, avec toutes ces matières organiques dont on a parlé, sang, gruau, bière et autres miel ou matières grasses, hein, qui créent, qui laquent finalement la sculpture. Est-ce que vous voyez ce que ça représente ?
Mais toujours, hein, les femmes. Anthropomorphe,
ça, oui. Voilà, c'est ça, c'est une figure effectivement anthropomorphe. Plutôt une femme.
Plutôt,
parce que
c'est pas évident.
Tout ça est quand même un peu, comment dire, recouvert. Hein. Je vais vous en passer une autre, un peu du même genre.
C'est un homme,
une femme, on ne sait pas trop, parce que, à vrai dire, il y a beaucoup les attributs de l'un et de l'autre.
Oui.
Hein. C'est très masculino-féminin ou féminino-masculin, tout ça. Oui, il y a une sorte de barbe, mais il y a des seins très développés, il y a un sexe masculin, mais enfin bon, on est vraiment dans les deux. Hein.
Et pourquoi il y a ces bandes verticales au-dessus ?
Qu'est-ce que c'est que ces bandes verticales ?
C'est pour tenir accroché.
C'est pour tenir, ça permet d'accrocher.
Oui, non, c'est pas ça. Pas du tout.
Non.
Les bras, les mains.
Effectivement.
Ah, de prière.
Ce sont des personnages qui ont les bras levés.
Et pourquoi c'est si
hyper curieux ? Parce qu'ils sont dans une
attitude
de louange.
Ah, mais ils sont peut-être dans deux.
Effectivement, voilà deux personnages qui ont les bras levés.
Mais
pourquoi en effet les bras levés ? Pardon ? C'est ça, c'est l'idée en effet d'une incantation. Une incantation qui peut avoir quoi comme finalité ? Le but de ces statuettes, c'est en effet, j'allais dire, d'incanter, de demander quoi ?
La pluie.
Voilà, Hein, c'est en effet quelque chose qui a pour but de demander l'eau, la pluie. Bon, il est vrai que du côté de la face du blanc de Niagara, il ne pleut pas tous les jours. Hein. C'est donc des lieux qui pourraient être d'ailleurs plus désolés. Hein. Après tout, le Niger n'est pas à côté. Mais enfin, voilà, on est dans un secteur où il y a de l'eau. Mais enfin, quand même, hein, c'est des lieux qui doivent être très arides. Donc effectivement, l'eau est capitale, hein, d'autant que les Télèmes, tout comme les Dogons, sont des peuples d'agriculteurs. Hein. Donc l'eau, elle est capitale. Ces figures, quelque part, notamment, demandent l'eau, invoquent l'eau. Voilà, alors je vous montre ici un peu plus. Hein, ce sont donc deux figures au bras levé. Toujours fin du Moyen-Âge, on est chez les Télèmes, hein, 13-15e siècle. Et donc des sculptures avec une patine très croûteuse. Des sculptures comme ça, vous en verrez des tonnes. Hein. Voilà toute une série qui appartient au musée du Quai Branly, par exemple. Hein. Ce n'est pas les mêmes que précédemment, hein. Mais c'est toujours la même chose. Vous voyez, à chaque fois, des figures... qu'est-ce que vous pouvez voir, d'ailleurs, quelquefois, qui peut changer un peu de celle qu'on vient de voir ?
Les jambes sont...
Il y en a qui sont sombres.
Ah oui, alors il y a en effet des patines plus croûteuses ou plus lisses, oui, plus sombres ou plus claires. Ça dépend aussi des conditions de conservation, tout ça. Hein.
Des jambes écartées.
Oui, jambes écartées ou
et
pas.
Des bras différemment.
Des bras plus ou moins longs, différents. Mmh. Quelquefois, on a même l'impression qu'il y a deux paires de bras. Hein. Mmh.
Oui. En bas, il y a
des jambes.
Alors, à vrai dire, pour comprendre ce que c'est que ces sculptures, il faut que je vous raconte une petite histoire. Je peux guère vous la faire deviner. Parce qu'à moins que certains d'entre vous la connaissent, hein, c'est l'histoire qui nous a été transmise par les Dogons, qui concerne l'origine du monde vue par les Télèmes, mais que les Dogons se sont appropriés. Est-ce que certains d'entre vous connaîtraient cette histoire-là ? Non ?
Non.
Je vous la raconte rapidement ?
Oui.
Ça va nous ramener à ça. Hein. Pour les Télèmes, nous disent les Dogons, qui se sont, encore une fois, appropriés cette histoire, tout a commencé par une sorte d'être premier, créateur, qui s'appelait Ama. Mais ce Ama, qui est le dieu créateur des Dogons, si vous voulez, et des Télèmes, c'était un être particulier en sens qu'il était un, mais en même temps deux. Il était homme et femme, masculin, féminin, terre et eau, tout, deux, deux ensemble. Et ce dieu Ama, un jour, a voulu créer l'univers, mais notamment créer des êtres, vous et moi. Alors, il a créé, pour créer ces êtres, il était après tout lui-même dual, une sorte de placenta sur Terre, avec deux êtres à l'intérieur, et un placenta dans l'air, avec deux êtres à l'intérieur. Il est lui-même jumeau. Il crée deux jumeaux. Un jumeau sur Terre, des jumeaux sur Terre, et des jumeaux dans l'air. D'accord ? En fait, il répète sa propre structure, si vous voulez, dual, mâle, femelle, etc. Bien. Donc le monde commençait à vivre normalement, tout était bien, il y avait un ama dual qui avait créé deux sous-amas, j'allais dire eux-mêmes dual, tout était très équilibré. D'ailleurs, ama commençait à trouver, pour poursuivre cette espèce de schéma dual, des parèdres, c'est-à-dire des accompagnateurs, pour chacun des deux jumeaux sur Terre ou dans l'air. Vous me suivez toujours ?
Mm-hmm.
Voilà. On allait donc encore recréer des couples, si vous voulez, dans l'air comme sur Terre. Seulement, voilà, il y a eu un gros problème. Le problème, c'est qu'un des deux jumeaux, dans un des placentas, celui sur Terre, il n'a pas joué le jeu. Il a décidé de déchirer la post-placentaire, de sortir. Il a même violé son jumeau, et puis il est parti. Gros problème. Parce que l'équilibre du monde s'en est trouvé complètement bouleversé. L'équilibre du monde commençait à se mettre absolument en place par cette sorte de dualité de base, et bien par cette espèce de malfaisance de ce jumeau, de l'un des deux jumeaux terrestres, qui s'appelait Ogo, l'équilibre du monde a été totalement bouleversé. Ça a été le chantier. Alors il a fallu réparer ça, parce que c'était bien gentil. Ogo était parti, avait en plus violé son jumeau. Le monde, encore une fois, était complètement déséquilibré. Alors pour tenter de les rééquilibrer, on a décidé de sacrifier le jumeau resté. Hein? Ogo était parti, mais il en restait un sur Terre, qui s'appelait Nomo. Et bien on a décidé de sacrifier Nomo parce qu'en sacrifiant nos mots, c'était une manière de rétablir l'équilibre. Alors on a attaché nos mots à un arbre, les bras en hauteur, et puis on l'a coupé en morceaux. Et en le coupant en morceaux, ça a fait du sang, le sang s'est répandu sur la terre et a régénéré la terre. Ça nous rappelle des choses, entre parenthèses. Mais n'ayez crainte, tout s'est bien terminé pour nos mots, parce que finalement, je passe sur les, entre guillemets, détails, hein, il est lui-même ressuscité et la suite des événements a été tout à fait favorable. Et voilà en gros, n'est-ce pas, ce mythe fondateur des Dogons, dans lequel vous voyez deux choses. Cette sorte de dualité qui est fondamentale chez les Dogons et chez les Télèmes, et ce mythe du départ, qui est un mythe que j'avais presque envie, en faisant une sorte de pécique iconoclaste, hein, qui est quasiment christique. Hein. C'est-à-dire que nos mots se sacrifie pour sauver le monde. Enfin, on le sacrifie.
Oui.
L'histoire ne dit pas s'il a vraiment été d'accord. De toute façon, il n'avait pas trop le choix. Hein. Vous voyez que Papandès, c'est un peu le genre de même chose qu'on a trouvé aussi chez les Mayas l'autre jour. Hein. C'est-à-dire toujours cette idée du sang qui régénère. Hein. Là aussi, on a la même idée. Évidemment, les figures que vous avez là, et je vous passe d'ailleurs la légende correspondante, sont des figures qui, très certainement, évoquent cette espèce de mythe fondateur qui est celui de nos mots, hein, accrochés à l'arbre, que l'on coupe en morceaux, les bras levés, hein, et qui donne son sang. Et d'ailleurs, vous voyez que l'idée des bras levés est une idée double. Elle évoque nos mots qui est attaché à son arbre et qu'on va couper en morceaux, mais elle évoque également ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la volonté d'appeler le ciel et l'eau. En fait, c'est deux en un, si vous voulez, là aussi. Hein. Ces sculptures, elles évoquent les deux choses. Elles évoquent le sacrifice fondateur et l'invocation au ciel. D'accord ? Par parenthèse, ces grandes figures, ces figures-là, qui sont souvent pas très grandes, hein, on en trouve aussi d'autres plus grandes. Par exemple, est entrée au musée du Quai Branly il y a quelques années cette sculpture tout à fait extraordinaire qui date du Xe siècle. Xe siècle. Et qui, vous le voyez, représente à nouveau un de ces personnages, homme et femme, il a une barbe et il a des seins, bon, qui sont vraiment très typiques de cette culture Télème, hein, en l'occurrence Djenenké, mais je ne vais pas partir dans les détails de la culture Télème, parce que ce serait un peu compliqué.
Il y a deux personnages en bas.
Oui, absolument. Deux jumeaux, toujours. Le personnage lui-même, qui est peut-être, entre guillemets, une figuration d'Amma, il est homme et femme, il est double. Il a lui-même des jumeaux, parce que vraiment, cette idée gemellaire, elle est à la base de la culture Télème et de la culture Dogon. Et vous trouverez très souvent des sculptures comme ça, hommes et femmes, hein, je vous en montre une autre. Là. Vous avez la même chose. Encore une fois, vous n'en faites pas du mot Djenenké, hein. Il se trouve qu'il y a, sur le delta du Niger, au bord du plateau de Bandiagar, une ville qui s'appelle Djené, qui est sur le Niger, hein. Et la culture Djenenké était une culture du plateau de Bandiagara, une culture Télème, mais influencée par Djené. Voilà, d'où le mot de Djenenké. Mais je passe sur ce livre.
C'est pas encore un appui-tête.
Eh ben si, c'est encore un appui-tête. Parce que dans les cavernes sépultrades, on en trouve plein. En l'occurrence, c'est plutôt un appui-tête d'homme. Hein, parce que les appui-têtes de femmes sont vraiment des sortes de plateaux avec un petit pied circulaire en dessous. Les appui-têtes d'hommes sont verticaux. On en trouve des quantités dans les cavernes Télème. Hein. Alors, on en trouve même quelquefois en métal, c'est le cas celui-ci, et tout petit. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on trouve dans les cavernes des appui-têtes réels qui servaient aux vivants mais qu'on mettait aussi auprès des morts? Pourquoi est-ce qu'on trouve celui que vous voyez là, il est grand comme ça? C'est un appui-têtes qui, alors là, ne pouvait pas servir. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi mettre dans les cavernes sépulcrales des appui-têtes qui ne servent à rien?
Une offrande.
Et des enfants, non?
Des offrandes, mais des offrandes dans quel sens?
Que les morts s'en servent.
Voilà, ouais. C'est ça. Ce sont des espèces d'offrandes, ce sont des objets votifs. Hein. Le but est, en effet, pas qu'ils servent, mais que l'idée serve, en quelque sorte. Hein. Hein, ce sont des objets votifs, effectivement.
Ah, c'est... aussi une figure.
Une statue.
Une figure.
Une figure.
Enfin, c'est anthropomorphe.
Une figure bravée. Ouais.
Et avec encore les vendeurs.
Un totem.
Oui.
En quelle matière?
Bois.
Quelle taille?
Dans les
50
cm.
50 cm.
C'est notre taille favorite.
Je vous en montre une autre un peu équivalente de ces sculptures.
Oui.
Ben, il y a toujours un personnage qui est
expliqué. Toujours un personnage.
Toujours les bras levés.
Les bras.
Les bras, les bras levés.
Eh oui. Toujours les bras levés. Hein. Alors, c'est levé d'une manière un peu spéciale, mais c'est rendu de manière un peu particulière. Mais effectivement, on a toujours cette idée, notamment dans celle de gauche, hein, de bras levés. Hein. On retrouve notre mythe fondateur. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces espèces de d'encoche qu'on voit là-haut ou là-bas?
Des marches. D'un propulseur.
Un propulseur. L'idée d'un.
D'une
sorte de fronde ou de. Comment est-ce qu'on appelle ça?
Lance-pierre.
De saguet.
De
saguet. Oui. J'ai entendu autre chose par là.
Oui, mais
échelle. Échelle, ce serait donc des marches.
Oui, mais c'est petit, ça.
Alors, ce sont des objets petits. Hein. Ces objets-là font une vingtaine de centimètres de haut. Qu'est-ce que ça peut être? Donc ce seraient des figures anthropomorphes qui évoquent toujours l'idée des bras levés, hein, et en même temps vous dites que ces espèces d'encoches qu'il y a dans la partie supérieure évoquent des marches. C'est ça, je résume à peu près ce que vous disiez.
C'est pour attacher,
à mesurer,
à mesurer,
oui. À être décoré,
à décorer. Alors, vous avez grosso modo trouvé. Les figures que vous avez là sont bel et bien des figures qui reprennent quelque chose qu'on vient de voir. Oui. Ça reprend quel genre de figure?
Les statuettes.
Oui, les statuettes qu'on a vu tout à l'heure. Comment est-ce qu'il s'appelle d'ailleurs ce Nomo, hein. Ça reprend la figure de Nomo. Hein. Mais effectivement, les encoches que vous avez au-dessus et qui se termine de manière bifide, parce qu'on a dû prendre un arbre, une branche d'un arbre, qui se terminait comme ça, mais évoque les bras en hauteur de Nomo, qui évoque, un, son sacrifice, deux, l'invocation à la pluie. Encore une fois, deux éléments. Mais vous aviez raison aussi de dire que ces encoches correspondent à des représentations de marches, parce que ce que vous avez là, ce sont des échelles, effectivement, mais des échelles miniatures. Si vous allez en pays de Gond, vous verrez des échelles comme ça, mais en grand. Ça, ce sont des échelles miniatures, donc qui reprennent en petit les grandes échelles.
Et dans les grandes échelles, il y a aussi une figure anthropomorphe.
En général, il y a plutôt uniquement des marches, si vous voulez. Vous pouvez avoir quand même la présentation de figures. Mais là, la figure vraiment prend même la place des marches. Hein. Sur une véritable échelle, vous auriez là, à la place du personnage, des marches. Ce genre d'échelle pouvait servir à monter ou
dans la falaise,
ou bien même une fois qu'on était monté dans la falaise.
On descend.
Alors, on descend. Et une fois qu'on a monté et qu'on est dans la falaise, l'accès soit aux sépultures, évidemment, soit aux greniers. Rappelez-vous des greniers. Hein. Les greniers sont volontiers un peu en hauteur et les portes des greniers sont d'autant plus en hauteur qu'il faut éviter que des gens y entrent, et surtout les animaux. Hein. Absolument. Donc il y a de vraies échelles comme ça. Ça, ce sont des réductions de ces échelles. Pourquoi faire des réductions d'échelles? Pourquoi faire ces objets sont comme ça, ce ne sont donc pas des échelles, hein, sont donc des échelles miniatures, avec en plus notre nomo représenté dessus. Pourquoi?
Pour les emporter dans les sépultures.
Voilà, sont également des objets qu'on trouve dans les sépultures, voire dans les sanctuaires, hein, absolument. Et qui effectivement sont aussi des objets votifs. Après tout, l'échelle, c'est un thème important, hein, sur plein de plans. Une sorte de cavalier.
Ah,
assis sur
une bête.
Assis sur
un animal.
Oui, un animal. Ben, on a un peu de mal à dire, à voir ce que c'est. Cet animal, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être soit en effet un mammifère du type chien ou autre, soit même un cheval, mais qui aurait perdu ses pattes, ses oreilles. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Hein.
Et donc, il a toujours les bras levés.
Il a toujours les bras levés.
Et il est toujours masculin-féminin.
Il est toujours masculin-féminin. Il a des seins, il a un sexe masculin. Toujours la même chose. Hein. Bras levés, sexe masculin-féminin. Hein. Vous voyez que c'est toujours le même genre de choses. Hein. Et qu'est-ce que vous auriez à dire sur la matière là, de cette pièce? C'est fait en quoi?
En bois.
C'est toujours fait
c'est
en
toujours
bois.
Bois.
Toujours une pièce en bois. Et le bois est recouvert.
D'accord, de la patine.
Et bien, toujours la même chose. Cette pièce de croûte que l'on a déjà décrite. Alors là, on a une pièce qui date également de période ancienne, en gros la fin du Moyen-Âge Thélème. Hein. Toujours la même chose. On est vraiment dans des pièces très anciennes. Et ça?
Qu'est-ce qui s'est passé, là?
Il a baissé les bras.
Il a baissé les bras?
Non, c'est...
Alors d'abord, il cache son visage. Là aussi, alors, quitte à être redondant, c'est en quoi cette pièce?
En bois.
En bois. Et en bois qui est couvert comment?
De la patine.
Et toujours de la même manière, avec bah, les matériaux dont on ne parle pas. Et ça représente quoi?
Eh bien, toujours.
Ça représente quoi? Alors, nomo peut-être, mais pas sûr. En tout cas, c'est un personnage.
Oui.
Et le personnage, qu'est-ce qu'il fait?
Il se cache.
Il se cache.
Il se cache. Oui.
Ah, c'est le méchant. Ah, c'est celui qui a violé son frère.
C'est le méchant, sans doute.
Oui, c'est le méchant.
Celui qui est honteux, celui qui est sorti du placenta et qui a fait des bêtises. C'est sans doute lui. C'est-à-dire celui qui est honteux, ce serait Ogo, hein, le frère de Nomo. C'est-à-dire celui qui se couvre le visage de honte. Parce qu'il a quand même mis le monde... dans le mauvais sens. Voilà. C'est à cause de lui qu'on a tous ces problèmes.
Après tout. Réchauffement
climatique. Mais notamment tout le reste. Ogo, c'est vraiment celui qui a créé tous les problèmes. Donc il est bien honteux d'avoir créé tous ces problèmes et il se cache le visage. C'est très vraisemblablement ça. Alors on n'est pas. Personne n'a interviewé Thélème hein, pour. Mais bon, on a, via les Dogons, encore une fois, bien l'impression qu'il s'agit là de ce type de représentation. Bien. Alors, on a parcouru les cavernes sépulcrales et autres sanctuaires Dogon. Et on a. Pardon, Thélème. Et on a découvert tous ces objets que nous avons vus. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe après les Thélèmes, à l'époque des Dogons, qui sont, on l'a vu, hein, les successeurs des Thélèmes. Juste peut-être deux mots de géographie à nouveau. Vous reconnaissez la carte que je vous montre là, hein, qui est la carte d'Afrique de l'Ouest. Hein. Vous reconnaissez ici notre bande Diagara, on était là il y a deux minutes. Hein, là. Vous reconnaissez ici ce qu'on appelle le delta intérieur du Niger. Vous savez que le Niger a ça d'extraordinaire, c'est qu'au lieu qu'il y ait, j'allais dire, simplement un delta qui se jette dans la mer, hein, il y a en fait un delta au milieu des terres. C'est-à-dire qu'ici, autour de cette île de Djéné, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, vous avez un immense delta intérieur. Ça, c'est plein d'eau. Hein, c'est superbe. Il y a des oiseaux, des tas de choses. C'est magnifique. Voilà. Et donc, le Niger fait une sorte de grande boucle comme ça. Hein, et là, vous avez le delta intérieur. Et là, notre falaise de Bandiagara, qui est parallèle au delta intérieur. Donc ça, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et nos Thélèmes, ils vivaient là. Seulement, voilà, il y a eu un événement très important au XIVe siècle. Cet événement important, c'est l'Empire du Mali. Vous avez déjà entendu parler de ça?
Non.
Non? Au XIVe siècle, s'est développé en Afrique de l'Ouest un immense empire qu'on appelle l'Empire du Mali, qu'on appelle souvent aussi l'Empire Mandingue, parce que cette période, ce secteur, on l'appelle souvent le Mandé. Et l'Empire du Mali s'est développé dans toute cette poche que vous voyez là. Tout ça, c'est l'Empire du Mali. Donc c'est, vous voyez, nettement développé dans l'Afrique de l'Ouest. La personnalité la plus célèbre, on la connaît notamment par ça. Ce que vous avez là, c'est un atlas qui date du XIVe siècle, qui a été offert à Charles V. C'est pour ça qu'on l'appelle l'atlas catalan de Charles V. Il se trouve à la Bibliothèque nationale de France. Hein. Et cet atlas du XIVe siècle est extraordinaire parce qu'il représente l'Angleterre, l'Irlande, la France ici, vous devinez peut-être l'Espagne. Voilà, la France est là, l'Espagne est là. Hein. Et là, vous avez la côte d'Afrique du Nord. Là, vous reconnaissez la chaîne de l'Atlas. Hein, et en dessous, l'Afrique subsaharienne. Et là, vous voyez un monsieur. D'accord ? Ce monsieur, que vous voyez mieux là.
C'est Kankou
Moussa. C'est Kankou Moussa. Kankou Moussa, c'est le souverain de l'Empire du Mali dans la première moitié du XIVe siècle. Cet empire qui va avoir l'impact territorial que je vous ai montré. D'accord ? Kankou Moussa, ce n'était pas n'importe qui. Hein. C'était un type extrêmement riche. L'Empire du Mali était quelque chose de très important. Et c'était tellement riche que là, dans l'atlas de Charles V, on le voit en train de tenir quoi ?
Le monde.
Pardon ? Alors, ce n'est pas le monde. C'est de l'or. Une pièce d'or. On sait par les historiens arabes que quand Kankou Moussa, qui était musulman, hein, en fait, à cette période, la religion musulmane va descendre vers l'Afrique de l'Ouest, et cet empire du Mali est un empire de religion musulmane. Et quand il est allé au pèlerinage de la Mecque, il s'est arrêté au Caire, et il a dépensé tellement d'argent, il avait tellement d'or, il y avait des mines d'or dans l'empire du Mali, hein, que le cours de l'or dans les pays musulmans s'est complètement effondré, tellement il a dépensé d'or. C'est pour ça que, vous voyez, au Moyen-Âge occidental, en Occident, quand on fait cet atlas, on présente ce Kankou Moussa, qui était donc célèbre bien au-delà du Mali, hein, avec une pièce d'or, parce qu'il est richissime. En tout cas, ce Kankou Moussa et son empire du Mali va s'étendre, si vous voulez, de telle manière que cet empire malien va repousser des populations qui se trouvaient ici à l'ouest, va les repousser par ici. Et parmi ces populations poussées par le développement de l'Empire du Mali à l'ouest, il y a les Dogons. Vous vous rappelez des Dogons ? Les Dogons qui se trouvaient par là, grosso modo, vont être poussés par l'avancée de l'Empire du Mali et ils vont arriver là, à Bandiagara. Et ils vont s'installer à Bandiagara, là où se trouvent les Dogons, ceux d'avant, ceux qu'ils ont trouvés. D'accord ? Alors, certains Alors, certains Telem vont rester sur place, d'autres vont partir dans ce secteur-là, hein, dans la terre qu'on appelle de Yatenga, hein, c'est-à-dire que c'est le Burkina Faso actuel. Hein, mais un certain nombre de Telem vont rester là, et en fait, il y aura une sorte de mélange Dogon-Telem, et la culture Dogon s'est complètement irriguée de la culture Telem. D'accord ? Alors, regardons maintenant un certain nombre d'objets Dogon, mais qui vont peut-être être d'autant plus faciles à étudier parce qu'on connaît maintenant la culture des Telem. Voilà un village Dogon. Vous voyez que ça ressemble pas mal au village Telem, hein, au pied de la falaise. Qu'est-ce que vous voyez là ?
Des jumeaux.
Des jumeaux.
Ouais, un couple.
Un couple ?
Un couple de jumeaux.
Un couple de jumeaux. Ces jumeaux, ils sont quoi ? C'est qui ?
Ils sont mâles et femelles.
Alors, il y a un monsieur et une dame. Hein. Il y a la dame à gauche, le monsieur à droite.
Ah oui.
D'accord ? Hein ? Alors, qu'est-ce que ça évoque, ce couple ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Il est tendre.
Pardon ?
Il est tendre.
Oh, possessif.
Très tendre. Ah, possessif. Chacun ses goûts. Et ses interprétations. Elle est là, cette chose que l'on peut avoir,
ah oui,
et qui est, voilà, une sorte d'élément labial. Hein.
Oui.
On fait un piercing, en fait. Hein. On perce la partie inférieure en dessous de la lèvre, et il y a une chose verticale qui porte. Hein. C'est un ornement. Hein. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'évoque ? Qu'est-ce que nous montre ce couple
divin
que vous voyez là ?
On a parlé de jumeaux originels chez les Telem.
Absolument. Donc on aurait ça. Mmh. Ok. Ça vous rappelle quoi de l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure?
Sur la terre.
Et ben voilà, l'idée du couple fondateur. Vous vous rappelez du couple fondateur? Comment est-ce qu'il s'appelait d'ailleurs ce couple fondateur qui était un personnage mais en deux, si j'ose dire?
Abraham.
Donc ce que vous avez là est peut-être en fait une représentation de cette créature du départ, Ama, qui est homme et femme. Alors c'est pas un seul dieu en trois personnes, c'est un dieu en deux, si j'ose dire. Mais c'est amusant de voir comment dans les cultures, dans les religions du globe, il y a comme ça des éléments qui se recoupent, qui se retrouvent. Là, finalement, chez les Dogons et chez les Télèmes, une divinité en est deux. C'est pas la triade, c'est la duale, si j'ose dire. Et bien, ce que vous avez là est peut-être un être, mais en deux, masculin, féminin, c'est-à-dire Amma. En tout cas, un couple. Alors, il ne faut pas du tout voir dans ce couple une sorte d'allégorie au couple idéal. Hein. Tout à l'heure, quelqu'un disait en s'étendre, donc disait c'est possessif. C'est ni l'un ni l'autre. Hein. C'est absolument pas une vision occidentale d'un couple. Hein. C'est pas un gentil couple qui regarde la télévision bras dessus. Hein. Vous êtes là, pas du tout là-dessus, là-devant. Hein. Vous êtes vraiment devant quelque chose qui est une sorte de représentation vraiment mythique et mystique hein, de la divinité du départ. Alors là, c'est qui? Moi, il faut tout me dire. Vous savez, d'autant que j'ai déjà tout oublié.
Nomo.
On est sans doute devant, effectivement, Nomo, c'est-à-dire ce personnage au bras levé. Hein, voilà.
Il y a plus de détails. Là,
plus de détails. Alors, on est chez les Dogons. Qu'est-ce que vous diriez, effectivement, de cette statuaire Dogon par rapport à la statuaire Télème?
Là, il y a des mains.
Oui. Ouais.
Oui. Et le visage est plus...
Elle est moins élémentaire.
Le visage est plus
travaillé. Le visage, oui.
Donc, on voit... Alors, est-ce que cette idée d'un travail plus complet, etc., elle n'est pas fausse, mais moi, je mettrais un petit bémol. Pourquoi?
Parce
que les parcs couverts, c'est plus réaliste. C'est parcs couverts. Là, on n'est pas devant des pièces couvertes. D'abord, c'est des pièces moins anciennes. Hein. Bon, ça, c'est pas tout jeune. Ça date des 14-15e siècle. Hein. Bon, voilà. Mais c'est quand même pas du 11e siècle, du 10e. Hein. Donc, on est devant des pièces hein, plus tardives, mais effectivement, qui n'ont pas fait l'objet du même type de rituel. On n'a pas couvert, recouvert et recouvert encore. Hein.
Est-ce que c'était un bloc total qui était sculpté ou si on a fait des rajoutures?
Des ajouts. Non, c'était monoxyde. C'est dans une seule pièce de bois. C'est une pièce assez grande. Hein. Hein, ça fait bon 1m20.
En effet.
Alors, vous disiez aussi que c'est plus réaliste, entre guillemets. Hein. C'est vrai, on est là dans quelque chose qui va plus près de la réalité. En d'autres parenthèses, à propos de réalité, entre guillemets, qu'est-ce que vous remarquez chez ce personnage?
Alors, les mains, c'est comme des bracelets.
Pardon, oui, alors il a effectivement des bracelets aux mains, aux poignets, ouais. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre?
L'intérieur.
Pardon?
Les côtes.
Le cou aussi, là.
Vous dites qu'on voit les côtes.
Non, des organes, je ne sais pas. C'est bizarre.
Ah, non, c'est qu'il doit y avoir un nœud du bois, là.
C'est animé, oui, c'est ça.
Donc ça, ce n'est pas voulu.
Ce n'est pas une radio.
Mais qu'est-ce que vous voyez là?
La colonne des membres inférieurs. Les membres inférieurs sont plus dessinés, là.
Ça, qu'est-ce que...
Ils sont musclés. Hein.
Ah oui, c'est un personnage assez musclé. Hein.
Le cou, il a un...
Mais qu'est-ce que vous voyez là ou là? Voilà, ce qu'on appelle les scarifications. Hein. Ouais. Il y a des tatouages, entre guillemets.
Moi, je voyais des
coups. Le cou, il est grand.
Le cou aussi, il est loin.
Je crois pas. Non, je pense que il est très, très cylindrique. Je pense pas. Hein. On ne voit pas très bien, mais je pense pas. Vous aurez remarqué aussi qu'on a un personnage féminin et masculin.
Oui, encore une fois.
Au passage. Comment est-ce que vous... Donc, vous avez dit, en effet, qu'on avait là quelque chose de plus fini, entre guillemets. Mais je vous ai remarqué qu'on n'a pas une pièce croûteuse et engluée. Hein. Peut-être aussi pour ça que c'est plus fini que les autres. Mais peut-être aussi que c'est une caractéristique des Dogons par rapport à Télème. Hein. Vous disiez aussi qu'on était dans quelque chose de plus, entre guillemets, réaliste, hein, de plus descriptif. Même si ça reste, entre guillemets, relativement abstrait, c'est quand même plus réaliste. Oui. Vous auriez d'autres éléments pour caractériser une pièce comme celle-là? Ou comme celle-là? Bon, on verra plus tard. Ça, c'est un autre, vous voyez, c'est une autre sculpture, hein, tout à fait du même genre. Toujours un personnage au bras levé. On est vraiment dans la même. Dans
la morphologie est plus étudiée.
Oui. Et puis, oui, donc quelque chose qui décidément va toujours vers cette idée de réalisme, hein, une morphologie plus clairement exprimée, une expression peut-être plus poussée. Ouais. Allez, on continue.
Siège.
Table.
Ou instrument au tambour.
Siège. Tambour.
Siège.
Un petit tabouret.
Oui.
C'était pas mal.
Petite table.
Table d'offrande.
Table d'offrande.
Oui.
Non. Ok. Alors, cette table d'offrande, cette table, elle est composée de quoi ?
De.
Il y en a plein, là.
Ah, mais oui, il y a deux paires de jumeaux.
Deux seulement ?
Non,
on a sans doute quatre. Hein.
Un,
deux, trois, quatre, et les autres derrière sont cachés. En fait, il y aurait quatre paires de jumeaux, sans doute. Il n'y a que ça.
On dirait une peau qui rappelle le djembé. C'est pas un instrument.
L'idée du tambour que,
ben oui.
Que,
oui, le tambour,
qui a été évoqué. Hein. Ça rappelle un peu ça, effectivement. Hein. Bon, mais on a nos personnages, nos nomos, hein, les bras levés. Nomo a fait des petits, si j'ose dire. Alors, il y en a 4 fois 2. Toujours, vous voyez, cette idée de 2. Vraiment, cette idée gemellaire du double, du couple, est quelque chose de très, très important chez les Logos et chez les Télèbres, qui d'ailleurs ignorent le rite du mariage. Hein. Il n'y a pas de rite de mariage chez nous. Non, il n'existe pas du tout. Donc, décidément, notre couple de tout à l'heure, ce n'est pas un couple au sens occidental du terme. Hein, mais le couple, la gémellité, la dualité, ça, par contre, ça structure complètement l'idée, l'esprit des deux groupes. Mais au-delà de ça, moi, je vois quand même d'autres choses. On voit quatre couples,
oui, mais alors,
nos mots, entre guillemets.
Ils supportent quelque chose avec un axe. Il y a un axe central, peut-être pratique.
Voilà, il y a un axe central, sans doute pratique, effectivement, pour que ça tienne. Hein, mais il y a aussi deux autres choses.
Les deux.
Ah, il y a le dessus et le dessous. Voilà. Hein. Et ce sont les dessous, vous pouvez les décrire un peu ?
Des scarifications.
Des scarifications.
Ornées de
dessins géométriques. Qui ressemblent à quoi ces dessins géométriques au-dessus et en dessous ?
De l'eau.
Alors voilà, c'est sans doute la représentation de l'eau. Vous voyez des zigzags, hein ? Vous les voyez là et là. Et bien ces zigzags sont sans doute la représentation de l'eau. Finalement, on aurait quoi comme représentation ici ?
Le ciel et la terre.
Voilà, on a en fait une représentation, j'allais dire cosmogonique, hein, oui. Le ciel et la terre, avec ces nomos, hein, ces génies du départ, en quelque sorte, hein, qui tiennent l'univers. Mais vous vous rappelez, hein, Ama est le créateur de l'univers, il crée les êtres vivants, il y a un placentin en haut, un en bas, à chaque fois il y a deux jumeaux, alors il y a celui qui fait des bêtises, etc., mais tout ça va être quand même rattrapé, et je vous rappelle qu'Ama avait trouvé des parèdres pour chacun des deux jumeaux, même s'il est parti, hein, mais il va essayer de remettre les choses en place, bref, vous avez là finalement, non pas du tout un tabouret, une table, encore moins une table d'apéritif, ou même un tambour, hein. Vous avez là une représentation du monde. C'est une planisphère que vous avez là, avec l'eau, de la terre et du ciel, et les nomos qui soutiennent l'univers. C'est eux qui le rendent possible. Alors, c'est quand même un peu un tabouret. D'ailleurs, on appelle ces objets tabourets de Hogon. Tabouret entre guillemets. Qu'est-ce que ça peut être que le Hogon ? Le Hogon ?
Prête ?
Alors c'est vrai que Hogon fait penser à Dogon, mais effectivement c'est le prêtre. Le Hogon ou le Hogon, je crois qu'on peut dire les deux, et ma prononciation de Dogon a des failles, mais c'est en effet celui qu'on appellerait sous nos climats le grand prêtre, hein, qui a à la fois un rôle sacerdotal, mais également un rôle de chef, notamment du chef guerrier. Donc il y en a un qui peut s'asseoir sur le monde, c'est le Hogon. Voilà. Il en est le maître terrestre. Mais autrement, ce tabouret ne sert pas au-delà de ça, hein, de tabouret, sinon on engonne lui-même. Alors il y en a toute une série, hein, je viens de vous en montrer, hein, voilà un autre là. Vous avez même trois figures là. Hein. Ah, chose assez curieuse. Ouais. Je ne peux pas vous dire pourquoi.
Mais ça se perpétue loin 18, 19.
Absolument.
C'est dur.
Absolument. Vous avez là vraiment des schémas artistiques qui ont effectivement la vie dure. Hein. On est à peu près 1000 ans après les sculptures Thelem du départ. Hein. Et vous avez toujours repris la même idée. Hein. Alors stylistiquement, c'est différent, mais quand même. Justement, quand vous voyez une pièce comme ça, là aussi sur le plan stylistique, par rapport à la sculpture Dogon, qu'est-ce que vous pourriez dire ?
Symétrie
relative, il y a trois ici, deux là, mais c'est comme ça, quand même très symétrique. Puis moi, il y a un mot qui me vient vraiment à l'esprit quand je vois ça ou les sculptures d'avant.
C'est répétitif.
Ouais, une dimension de répétition, effectivement. Puis c'est quand même un art très géométrique. C'est-à-dire, c'est un art de courbe et de droite. Hein. On est là vraiment dans quelque chose qui est, encore une fois, il y a des pleins et des déliés, j'allais dire, mais on est quand même dans un art de la ligne et un art très géométrique, un art très dessiné. On n'est pas dans une sorte d'emphase baroque où il y a des tas de bazar de tous les côtés, mais dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre. Il y a deux serres, il y a un cylindre central, et les figures elles-mêmes sont finalement très géométriques.
Mais c'est bien recomposé de plusieurs morceaux, là, quand même.
Non, c'est monoxyme.
Oh. C'est monoxyme. Bah oui, mais il faut le dégager.
Ah, absolument. Mais c'est les pièces monoxyme. Ah oui. C'est pas fait plusieurs éléments. Il faut le dégager, comme vous dites.
Oui, vraiment, oui.
Là, je vous montre ça parce que c'est un petit autel. Hein. Les Dogons font aussi des libations. Hein. Et là, en l'occurrence, c'est un petit autel, toujours avec des figures qui sont masculino-féminines, on ne sait pas trop, comme d'habitude, hein, dual. Hein. Et ça, c'est. Vous voyez que d'ailleurs, cette pièce est comme empâtée, un peu comme les pièces Thelem de tout à l'heure, sauf que ça, c'est Dogon. D'accord ? Non, zut, j'ai pas. J'ai dû. Donc, ça, c'est un baquet rituel. Qu'est-ce que vous voyez sur ce baquet rituel ? Et qu'est-ce que. Enfin, oui, qu'est-ce que vous voyez ? Décrivez ça.
Mais en couple aussi, les figures, les jumeaux.
Ça recommence, n'est-ce pas ? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de nos jumeaux qui sont comment ?
Avec les bras
levés. On recommence. Hein. Qu'est-ce qu'on voit au milieu ? Tiens, voilà, qu'on change la
boucle. Les crocodiles.
Les crocodiles. Hein. Alors, les crocodiles, ils ont une grande importance. D'abord parce qu'il y en a dans le Niger. Hein. Et puis, vous vous rappelez de la grande migration des Dogons, le moment où les Dogons sont partis de l'Ouest pour arriver jusqu'à Bandiagara. Eh bien, il y a des légendes disant que beaucoup d'animaux les ont aidés. Par exemple, les crocodiles les ont aidés à traverser le Niger. Le Niger, c'est énorme. Hein. Le Niger, c'est souvent 1 kilomètre ou 2 de large. Hein. C'est un fleuve monumental. C'est extraordinaire, le Niger. Hein. C'est un fleuve immense, c'est énorme. Quand on voit la Saône à côté. Non, vraiment, c'est un fleuve, mais inouï, n'est-ce pas, hein. Traverser le Niger, c'est une aventure. Hein. Et quand on sait qu'il y a des crocodiles, bah, heureusement, les crocodiles ont aidé les Dogons à traverser le fleuve. Il y a des serpents également qui ont réussi à leur faire traverser sous la terre. Enfin bref, ils ont été aidés par plein de gens et d'animaux. Alors là, les crocodiles, c'est sûrement une référence à ça, à cette aide que les crocodiles ont amenée. Il y a d'ailleurs des sculptures de bois qui présentent des personnages, les bras levés, sur les crocodiles. Hein. Alors, ce n'était pas le cas de notre bonhomme tout à l'heure sur un animal. Voilà, parce que visiblement, ce n'était pas un crocodile. Hein. Mais notre cavalier avec les bras levés, on a l'équivalent avec un crocodile en dessous. À quoi pourraient servir, à votre avis, ces baquets ? Qu'est-ce que vous voyez sur le devant, d'ailleurs ?
Purification.
Pardon ?
Des baquets rituels de purification.
Alors, oui, et cette chose-là, alors, c'est quoi ? À votre avis, ça fait quelle dimension, ça ?
Ceci n'est pas une
pipe.
Oui.
On se rappelle de l'année dernière. Enfin, je ne sais pas si on l'avait vu. Si on l'a vu. Oui, cette pièce que vous avez là, vous la voyez de quelle dimension ?
Un baquet.
Baquet,
ça veut dire. Ça fait à peu près 2 mètres de long.
Hein. Oh,
c'est pas une bricole. Hein. En tout cas, un bon 1,50 m. Hein. C'est un truc qui est important. Hein.
C'est pour l'écoulement de l'eau.
Oui. Alors, c'est pas tout à fait pour l'écoulement de l'eau. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça ? Est-ce que ça ressemble à quelque chose ?
Ça
une tête d'animal.
Oui. Vous avez une idée d'un animal?
Cylindrique.
Et ça aussi, c'est monopsile.
Ah oui. Alors un tronc d'arbre.
C'est la queue de l'autre
côté. Oui, c'est la queue de l'autre côté. C'est un cheval.
Ah bon. Oh.
En fait, la légende de Hama, Ogo et Nomo, etc., nous dit que Nomo, c'est bien assez rigolo, hein. Nomo, il a eu tous ces problèmes dont je vous ai parlé, on l'a sacrifié, il est ressuscité, bon. Et puis Hama a décidé de l'envoyer sur Terre pour bosser un peu, quand même, après qu'il ait été ressuscité, etc. Alors, Hama a envoyé Nomo et ses jumeaux sur Terre. Ils sont allés un peu vite d'ailleurs parce que en atterrissant sur Terre, l'atterrissage a été tellement brutal que ça a cassé les membres des jumeaux. C'est pour ça d'ailleurs que depuis on a des rotules, etc. Ça vient avec, en arrivant sur Terre, les jumeaux qui étaient tout droits, si je veux dire, paf, sont cassés. Et voilà. Et maintenant on n'a pas des membres rigides, si vous voulez, ce qui était le cas avant. C'est très rigolo cette chose-là. Ce qui a permis d'ailleurs aux humains de travailler et notamment de faire de l'agriculture. Hein. L'agriculture, elle vient de là. Et Nomo, le chef, entre guillemets, envoyé sur Terre par Hama, il avait un attribut qui est le cheval. Le cheval, qui est très important en Afrique de l'Ouest. Hein. D'ailleurs, l'Empire Mandé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'Empire du Mandingue, s'est développé autour du cheval. Hein. Donc chez les Dogons, le cheval, c'est très très important. Et le Ogon, c'est le grand prêtre. Il est sur un cheval, justement. Et donc là, ce cheval, dans ce baquet rituel, c'est encore une fois l'évocation de cet animal qui est le privilège des grands, en quelque sorte. Ce baquet rituel, on le sort régulièrement, notamment quand il faut invoquer la venue de la pluie. C'est en effet quelque chose qui sert à des purifications, mais aussi à des invocations. C'est vraiment un baquet rituel.
Et il peut être rempli par la pluie, en fait.
Il peut, mais on peut également le remplir d'un certain nombre de denrées alimentaires que l'on offre, notamment de la viande. En voilà un autre. Crocodile, cheval, etc.
Ah oui, oui, là, il y en a un. Oui, mais il y a un seul crocodile.
Il y en a un seul. Et là, nos nomos n'ont pas les bras levés. Mais il faut des exceptions.
Ah, c'est le cavalier.
C'est beau, hein. Voilà donc un de ces cavaliers. Hein.
Oui.
Donc évocation plus ou moins hein, de Nomo ou du Ogon, du Ogon. Hein. Alors des cavaliers d'Ogon, il y en a toute une série. Hein. Je vous en montre un de là, ou encore celui-là qui est beaucoup plus ancien. Alors là, il est plus abîmé, mais parce que plus ancien.
Le cheval est en peuple.
Oui.
Ah. Oh, c'est une maternité.
C'est une, entre guillemets, maternité. Quel peut être l'objet de ce genre de sculpture? Voilà, tout simplement. Tout simplement, c'est une évocation de la fertilité. Bon, c'est une pièce du XIVe siècle. Hein. Extraordinaire. Hein, c'est magnifique. Alors, par parenthèse, pour faire un saut de cet atelier à celui de l'année dernière, on comprend bien comment nos grands modernes, hein, de Matisse à Picasso, hein, ont regardé de ce côté-là. Hein, on voit vraiment. C'est-à-dire qu'on a là quand même une sorte de purisme des formes, de géométrisation, de volonté d'aller à l'essentiel de la ligne, qui est quand même extraordinaire. Alors évidemment, on appelle ça maternité avec des guillemets, parce que maternité, nous, on voit plutôt des vierges à l'enfant, hein, qui sont toutes encombrées de leurs magnifiques vêtements et plis, hein, au XIVe siècle, bon, c'est à Schumacher et tout le reste. Hein. Là, on a l'équivalent à la même époque, mais en Afrique. C'est quand même, je trouve, merveilleux hein, de voir cette richesse incroyable du monde. Voilà, alors il y en a plein d'autres. Hein, voilà une autre du 15e, un peu plus tard.
Qu'est-ce que c'est?
Encore des nomos. Là, il y en a trois.
Mais oui,
nous, avec les
bras
en l'air.
Ouais. Et c'est quoi cet objet?
Voilà, un problème.
Une porte.
C'est une porte. Hein? Ce que vous avez en bas et en haut sont les gonds. Enfin, pas les gonds,
les axes de pivot.
Comment est-ce qu'on appelle ce qu'il y a dans les gonds? Je sais jamais.
Les axes pour pivoter, mais.
Voilà. Porte de quoi?
De grenier.
Plutôt de grenier, effectivement. Ce sont des petites portes de grenier. Peut-être il y en avait-il une autre en face. Donc peut-être y avait-il à l'origine quatre, c'est-à-dire un autre nomo, ou bien trois autres. Et ça faisait... Enfin, tout est possible. Voilà. Et vous voyez toujours notre nomo qui est là en permanence, bien sûr. C'est une porte. Bon, d'abord au-dessus, vous reconnaissez qui ?
Toujours.
Nos jumeaux. Là, au moins avec les Dogons, on est tranquille. Il y a toujours des jumeaux quelque part.
Mais c'est l'objet.
Deux jumeaux.
Et qui sont sur les épaules de quelqu'un.
Qui sont sur quelque chose.
On a l'impression que la pièce horizontale peut bouger.
Exact.
C'est une coulisse.
C'est vrai. J'avais entendu le mot par là aussi d'ailleurs. Effectivement, c'est une serrure.
Non.
C'est une serrure. En fait, sur la porte, sur les portes, celles que je vous ai montrées tout à l'heure, il y a généralement des serrures qui elles-mêmes sont ornées de nombreux de jumeaux, etc. Ben voilà une serrure de bon.
C'est une serrure.
Oui. Alors là, hypertrophie.
Effectivement.
Et les membres.
Oui.
En plus.
Effectivement. C'est quoi ça ?
Là.
On trouve la fourche. Là, c'est assez grand. C'est quelque chose qui fait 1m50.
Elle a les bras verts.
Oui.
Les bras sont en drapé.
Ouais. C'est quoi comme objet ?
Un totem ?
Pardon ?
Un totem ?
Alors, pas seulement. Non, c'est pas une échelle, parce que je sais bien que les saints peuvent servir peut-être à aller plus haut, mais quand même.
Il faut sauter.
Voilà, c'est un peu. Il faut y arriver.
J'escalade les saints.
Ça peut peut-être fermer une ouverture, non ?
Non.
Poser quelque chose.
Poser quelque chose, mais quoi ? Effectivement, au-dessus, on posait quelque chose.
C'est une cariatide.
Pardon ?
C'est une cariatide.
C'est un peu ça.
Ah, ouais.
Donc, ça servait à poser quoi ?
Une poutre, alors.
Voilà. C'est, en fait, c'est un poteau, c'est un pilier.
Ah, ouais.
En fait, c'est un pilier de Toguna. La Toguna, c'est la maison des hommes.
Ah, il y a une femme.
Dans laquelle les femmes n'ont pas droit d'entrer. Voilà. C'est pour nous. Mais vous voyez que le décorum féminin est assez présent dans la maison des hommes. Donc le Toguna est un pilier, un poteau, si vous voulez, il y en avait plusieurs, qui servait à soutenir la charpente de la Toguna. Quant à la dimension féminine et de fertilité, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire travailler dessus. Voilà, en tout cas, là vous voyez un village Dogon aujourd'hui, en tout cas il y a quelques années. Babandès, c'est ce que vous retrouvez là dans le village que l'on a évoqué au cours de cette séance ? Des échelles, vous en voyez où ?
Ah oui, à gauche. Là-bas.
Pas mal.
La cour. Oui, ah oui, ici. Là. Oui, il y en a partout.
Il y en a partout.
Oui, là. À droite aussi, tout à fait.
Oui, je crois qu'il y en avait une par là.
À droite, là. Tout à fait aussi. Voilà.
Il y en a eu d'autres là.
Donc il y a des tas d'échelles. Des vannes, on a vu des miniatures, mais il y en a des grandes. Qu'est-ce que vous voyez d'autre aussi
qu'on a vu ?
Alors on voit les greniers. Qu'est-ce qu'on voit sur les greniers ?
Les récoltes.
Il y a des récoltes, mais...
Non, il y a des terrasses.
Alors, des terrasses, effectivement.
Et dans les
mais pour
objets...
entrer dans les greniers.
Des portes,
des ouvertures.
Alors, on ne voit pas forcément.
On les voit pas très bien.
Elles sont ouvertes ou fermées, mais voilà. Voilà, vous voyez, c'est... Alors, on en a vu quelques-unes, on a vu une qui est sculptée, mais voilà, donc ça vous donne l'idée de ces villages de Gond, aujourd'hui, dans lesquels on trouve tous ces éléments de bois. Là aussi, les échelles, vous en voyez là-haut. Hein, il y en a plein. Ça sert à monter sur les terrasses. Pour terminer, je vais vous montrer encore deux choses.
C'est un masque.
Je vous en montre un autre.
Un peu différent. Ah, mais du tissu.
Je vous en montre un petit dernier.
Magnifique.
C'est pas beau, ça ?
Ah, si.
C'est un chez vous. quand même magnifique.
Oh là là.
À votre avis, les masques, c'est chez les Dogons, quel est leur intérêt, leur sens, leur... Qu'est-ce que... C'est quoi ces masques? Pardon? Oui.
Pour des cérémonies.
Je dirais plutôt cérémonies. Parce que les masques, finalement, qu'est-ce que c'est quoi ces masques? Ça sert à quoi? C'est fait pour quoi?
Pour représenter.
Voilà, c'est pour transformer, pour représenter, pour transformer. Mais encore, est-ce que vous pouvez expliciter un peu ça? Puis on porte, nous, on porte un masque à carnaval, puis on rigole bien, puis voilà.
Changer de peau,
pardon.
De personnalité.
Changer de peau, c'est effectivement plutôt ça. Les masques, ils étaient faits comment, par qui et où et quand?
Pour une initiation,
oui. Faire un masque. Alors, effectivement, les masques, ils ne sont pas faits comme ça par monsieur, madame, tout le monde. Hein. Le masque a été révélé aux Dogons par une femme. C'est une sorte de génie féminin qui a révélé aux Dogons le masque, l'idée du masque, la question du masque. Et pourtant, les masques, mais peut-être à cause de ça aussi, ne sont faits que par des hommes. Effectivement, dans des rites d'initiation, on ne fait pas un petit masque comme ça sur le coin d'une table dans sa cuisine, hein. On va dans un lieu où ni les femmes ni les enfants doivent venir, sont forcément des adultes mâles circoncis qui travaillent à faire les masques. Parce qu'en effet, les masques, c'est pas simplement un truc qu'on se met sur le visage pour changer un peu de peau. C'est pour faire revivre les dieux, c'est-à-dire que les dieux ou les génies ou les figures qui sont présentées. Porter un masque, c'est être... C'est plus être soi-même, c'est être celui qui est le masque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le masque, c'est un... En prenant un masque, on est un autre. On fait revivre celui qui est représenté. Donc c'est quelque chose de... C'est pas, j'allais dire, c'est pas de la rigolade. Quoi. C'est quelque chose de vraiment... Très, c'est vraiment pour des cérémonies. Quoi.
Il y a un côté sacré.
Ah, totalement sacré. Alors il y a toute une hiérarchie chez les masques. Hein. Ça, par exemple, c'est sans doute une mère des masques. Les mères des masques sont des masques, là vous n'en avez qu'un morceau, quelquefois ça peut faire 3-4 mètres de haut, 5 mètres. Des masques immenses, on a peut-être vu sur des photos, j'en avais hélas pas sous la main, mais quelquefois ça fait, c'est une espèce de lame de bois absolument énorme, immense, qui ressemble à un serpent. Puis qu'est-ce que ce masque-là peut vous montrer aussi?
C'est un animal.
Alors, en fait, le masque Kanaga, c'est autre chose qu'un animal.
C'est guerrier, non?
Pas vraiment. Physiquement, il est fait de quoi ce masque?
Il est des parties textiles.
Du bois et du textile. Ça veut dire quoi par rapport au masque? Ben, ça veut dire que le masque, c'est pas que ce qu'on se met sur la tête. Voilà. Le masque, c'est ce qui masque le corps. Hein. Parce que très souvent, ces masques, on voit ça. Mais là, il manque tout ce qu'il y avait en fibre ou en tissu qui faisait que, en dessous du masque lui-même, il y avait quelque chose qui, quelque chose qui couvrait entièrement le corps. Là, vous en voyez une partie. Mais si vous voulez, ce qu'il y a en dessous, c'est le masque aussi. C'est pas des gugus qui ont simplement un truc sur la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des personnages qui sont complètement couverts souvent. Donc, le masque en bois, ça n'est qu'un élément. Le Kanaga, là, je vous le dis parce que vous ne pouvez pas le deviner. C'est un masque qui évoque plus une idée, un peu comme d'ailleurs le masque précédent qui montre la mère des masques. Ça, c'est une mère des masques, c'est une sorte de chef des masques. Le Kanaga évoque l'idée du trouble ancestral. Vous savez, le moment où Ogo va partir, etc., et bouleverse le monde, et bien ce bouleversement du monde, il est évoqué par ce masque Kanaga. Ces sortes de croix, vous voyez, au-dessus, c'est ce qui évoque le bouleversement du monde, quelque chose qui ne va plus. Quoi. Mais quelquefois, les masques, ils évoquent des figures particulières. Par exemple, là, c'est un singe.
C'est très beau.
Ah, je trouve ça magnifique.
Il a l'air lourd, celui-là, sur les
oreilles. Ben, peut-être. Et puis, évidemment, il faut imaginer qu'il y avait, encore une fois, des choses en dessous hein, qui complétaient le masque. Donc, c'est quelque chose vraiment de, oui, d'important.
Quels sont les bois utilisés?
Ça, je ne saurais pas vous dire.
Parce que celui-là,
c'est un bois très... singulier. Enfin, je ne sais pas. Enfin, je voulais terminer cette séance par là, parce que je trouve ce masque très cher. Mais aussi parce que... Et justement, si vous aviez là aussi, en deux secondes, pour terminer, caractériser stylistiquement, car ce masque est très typique de l'art des Dogons, vous diriez quoi, décidément ?
En classique.
Pardon ?
Classique.
Oui, quelque part. Quelque part.
Stylisation
très stylisée.
Oui, très
pour nous, c'est en effet, on dirait que c'est très moderne. Hein, alors que ça vient, bon, ça date du 19e, c'est pas hyper ancien. Hein, enfin, on a vu des choses équivalentes 5 siècles avant. Hein. On comprend vraiment pourquoi la découverte de ça par nous autres occidentaux au 19e siècle a quand même beaucoup nous a beaucoup étonné. C'est quand même très très curieux. Et on comprend que Picasso fasse les demoiselles d'Avignon après ça. Décidément. Pardon ?
Il y a ça, la demoiselle d'Avignon.
Mais oui, absolument. Absolument. Ben écoutez, voilà, c'est avec ce singe que nous allons terminer, heureusement, je trouve, ce cours, à cet atelier. Et nous nous revoyons dans une semaine. Mais pourquoi ? Ça,
il reste ça, deux continents.
Non, mais il reste plus
deux.